Bonjour Delphine Orvilla.
Bonjour.
Nous allons parler ce matin de votre dernière écriture qui s'intitule « Comment ça va pas ? Conversation après le 7 octobre » aux éditions Grasset. La première réflexion qui m'est venue après la lecture de votre ouvrage, c'est que justement vous écrivez sur le manque de conversation.
Oui, en fait, je crois que c'est la raison d'être même du livre, c'est que j'ai eu le sentiment après le 7 octobre que j'avais perdu les mots. Et que le monde face à moi n'utilisait pas les bons. Il y avait comme une problématique de langage qui m'est apparue assez rapidement. Et à défaut de conversation ou de possibilité de conversation, je me suis mise à écouter celles qui se produisaient dans ma tête. Il y a pas mal de conversations dans ce livre qui sont en fait des conversations fictives, des conversations imaginaires ou les conversations de mon inconscient. Et j'ai assez vite compris que chaque chapitre dans ce livre serait une conversation réelle ou fictive, en tout cas une conversation à laquelle j'aspirais dans un contexte où elle est justement devenue si difficile, où on peine à se parler.
Et justement, on le voit bien dans votre livre, effectivement, c'est une conversation plutôt intérieure, on pourrait la traduire comme ça. Encore que vous évoquez aussi des conversations que vous avez avec d'autres, notamment à la fin du livre, on y reviendra. Comment vous expliquez le fait que vous ayez tant de mal à trouver des interlocuteurs pour une vraie conversation aujourd'hui ? Dans les médias, par exemple.
Je crois que c'est l'effet... Il y a un effet sidérant de l'événement, de l'histoire, le sentiment que tout à coup, les mots sont comme empêchés. Et puis, je parle un peu dans le livre de la problématique que j'appelle la problématique du « mais », M-A-I-S, oui. La conjonction de coordination. Le fait que face aux événements terribles auxquels on assiste et dont on est témoin à distance, se développe autour de nous, et on l'a tous entendu, ces rhétoriques du « mais », des gens qui vous disent « Ah, c'est horrible ce qui s'est passé, mais des femmes ont été violées le 7 octobre, mais des enfants palestiniens meurent, mais certains sont utilisés comme des boucliers humains, mais... » Et en fait, toutes ces phrases qui contiennent des modérations, qui relativise, en fait, m'ont assez vite semblé obscène. En fait, c'est comme si ce langage-là nous contraignait à une empathie limitée avec l'autre. Comme s'il fallait être capable de relativiser la pleine empathie, de la mettre à distance, pour être dans des postures de jugement assez simplistes, simplificatrices, qui, en fait, je trouve, assez rapidement aussi nous déshumanisent, en fait... Conserver notre humanité implique de pouvoir être pleinement dans l'empathie avec l'autre, non pas parce qu'il a telle ou telle identité avec laquelle je vais m'identifier, mais parce qu'il est humain. Et cette empathie humaine, multidirectionnelle, qui devrait être la nôtre aujourd'hui, est empêchée, et c'est reflété par ce langage tellement alambiqué, erroné ou problématique. En fait, il y a pour moi très fortement une faille de langage autour de nous. Et c'est dans ce contexte que j'ai ressenti, moi, une urgence d'écriture.
Et c'est un livre sur les mots, à nouveau, beaucoup sur le langage, sur le dire, sur... Parce qu'on parlait de cette oralité que vous ne trouvez pas et que, du coup, vous mettez en mots aussi, par écrit. Mais vous revenez beaucoup sur la symbolique de certains mots, l'attention portée à certains mots, leur définition première.
Oui. D'une certaine manière, j'écris là-dessus depuis des années, parce que moi, mon seul outil, ma seule arme, si vous me permettez cette allégorie dans un contexte de guerre, c'est le langage, les mots. Moi, je crois au pouvoir des mots. Je crois qu'ils ont une capacité à nous relever. Je crois qu'ils sont une puissance de, je dis parfois, une arme de construction massive, comme ils peuvent être une arme de destruction massive. Le langage peut tuer, le langage peut nous permettre de nous relever. Et j'y crois encore plus fortement aujourd'hui. À un moment donné, dans le livre... J'écris quelque chose, certaines personnes m'ont dit « mais qu'est-ce que c'est naïf ?» J'ai dit que je ne crois pas que la paix viendra des généraux et des militaires, mais plutôt des poètes. Mais en fait, derrière cette petite phrase, il y a pour moi une vérité essentielle. Je crois que le changement dans le monde n'intervient qu'avec un changement de langage. Quand on est capable d'entendre des mots différemment, de les déployer différemment. On connaît dans l'histoire la puissance des mots. On sait, par exemple, et bien des choses ont été écrites là-dessus, que la montée en puissance des forces politiques violentes ou du fascisme s'accompagne toujours d'un appauvrissement du langage ou d'un détournement du langage. Et je crois que les solutions politiques au conflit viennent aussi toujours des mots, de notre capacité à les entendre autrement, à faire qui nous rendent plus grands. Donc c'est vrai que je travaille beaucoup autour de la question des mots, de l'interprétation des mots, de l'étymologie. Et je suis sans doute de ce point de vue-là influencée par ma culture et ma culture juive, dans le sens où le propre de l'exercice rabbinique, l'exercice des rabbins par excellence, et je dirais même l'activité sacrée juive par excellence, c'est un certain rapport aux mots, rapport au langage, rapport au jeu de mots, même à l'humour juif en fait. C'est presque toujours un humour de jeu de mots, un jeu sur le langage. Donc voilà, je ne peux pas le dire autrement que je crois au sacré des mots.
Et comme vous le disiez, vous avez toujours écrit sur cette attention portée au langage et aux mots. Est-ce qu'il vous semble finalement nécessaire de rappeler ou d'expliquer quelle est la fonction d'un rabbin ? Est-ce qu'elle est confondue avec la fonction d'un curé, par exemple ?
Oui, c'est un des grands malentendus souvent concernant ma fonction. Les gens ne savent pas exactement ce que fait un rabbin. L'image, on va dire, populaire que les gens ont, si je devais la caricaturer un peu, mais à peine, c'est que les gens pensent immédiatement à Louis de Funès dans Rabbi Jacob, auquel je représente, enfin, je ressemble pas particulièrement. Mais il y a cette image un peu caricaturale souvent du rabbin qui est véhiculée, ou alors une image populaire très simple, c'est qu'on s'imagine qu'un rabbin, c'est l'équivalent d'un curé ou d'un prêtre dans la tradition juive, alors qu'en fait c'est pas du tout la même fonction. Le rabbin ne s'inscrit pas, la fonction rabbinique n'est pas un sacerdoce, vous faites pas vœu de quoi que ce soit quand vous devenez rabbin, c'est pas une fonction consacrée, c'est purement une fonction d'enseignement. Un rabbin est un enseignant, c'est quelqu'un à qui une communauté va reconnaître une érudition particulière ou une capacité d'enseignement des textes. Donc en fait la fonction rabbinique, c'est un équilibre subtil entre une fonction pastorale, accompagner les gens dans des cycles de vie, ce que j'ai raconté dans un de mes livres, Vivre avec nos morts, par exemple, comment est-ce que j'accompagne les gens dans des moments sacrés ou complexes ou parfois dramatiques de l'existence, et puis un rapport au texte et à l'étude, une fonction d'enseignant. Donc là encore, vous le voyez, il est toujours question de mots qu'on adresse à l'autre, de la question du rapport au langage face au drame de l'existence, mais aussi d'interprétation des mots dans l'exercice de l'exégèse.
Et justement, dans votre livre, on a l'impression que finalement, avec cette fonction, vous portez plusieurs voix, puisque vous mettez en œuvre dans ce livre, et dans vos livres précédents aussi, hein, de toute façon, l'écho d'autres voix et de la mémoire. Parce que qui dit attention au langage, dit attention à la mémoire.
Oui, et j'avais déjà écrit ça dans mon livre précédent, Il n'y a pas de hasard. En fait, je ne crois pas au monologue. Je crois que même si on essaye, on n'est jamais dans un monologue. Même si on parle avec soi-même dans sa tête, on n'est jamais en train de monologuer. Parce que il y a en nous constamment plusieurs voix qui parlent. Il y a la voix de la personne qu'on est aujourd'hui, la voix de la personne qu'on a été, et la voix de nos ancêtres, et la voix de notre héritage, et la voix de notre temps. Et en fait, toutes ces voix sont constamment en dialogue en nous. Il ne faut jamais s'imaginer qu'on est capable de parler d'une seule voix ou avec une voix monolithique, ça n'existe pas. D'où tout le paradoxe de l'obsession identitaire de la société dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens aujourd'hui sont recroquevillés dans leur définition autour de quelque chose de très monolithique. Les gens, quand ils vous parlent, et de plus en plus ces dernières années, font comme s'ils n'étaient qu'une seule voix. Une voix chrétienne, une voix musulmane, une voix française, une voix juive, ou une voix végane, ou une voix homosexuelle, ou une voix... En fait, de plus en plus, les gens sont enfermés dans une définition d'eux-mêmes qui les empêche de faire résonner la pluralité des voix qu'il y a en eux. Moi, très souvent, quand je parle, je sens bien que mon interlocuteur s'imagine que je suis la voix juive, qu'il n'y a qu'une voix juive qui parle à travers moi, comme si d'abord je n'étais que ça, et comme si il n'y avait qu'une seule façon de parler le judaïsme, comme s'il n'avait qu'une chose à dire, comme s'il n'y avait pas une polysémie, une polyphonie en son sein. Et donc je pense qu'il faut aujourd'hui réhabiliter les dialogues intérieurs qui sont les nôtres. Ça veut dire entendre toutes les voix qui parlent en nous, et qui ne sont pas nécessairement toujours d'accord d'ailleurs les unes avec les autres, et entendre aussi les voix du passé qui nous composent. Dans ce livre, je dialogue avec mes grands-parents, par exemple, décédés depuis des décennies maintenant. Et pourtant, leur voix résonne, vient m'enseigner quelque chose, est un tiraillement intérieur. Mes différents grands-parents ne parlaient pas la même langue et étaient en désaccord sur bien des choses. Et tout ça dialogue en moi aujourd'hui. Et je trouve que c'est important d'entendre ces voix du passé parce qu'on est aussi, mais vous l'avez sans doute constaté, dans un temps politiquement où on veut un peu se débarrasser du passé. Où on s'imagine qu'on va pouvoir faire du passé table rase, dégommer les statues au nom des échecs ou de l'immoralité ou des écueils de notre héritage. On voudrait tout à coup s'imaginer qu'on va en faire table rase, se débarrasser complètement du monde duquel on vient pour créer du neuf. Et c'est jamais possible. Personne ne sait faire ça. Personne ne peut faire ça. C'est une illusion. En réalité, quoi qu'on souhaite, quoi qu'on veuille, nous sommes des héritiers. Nous sommes constamment en dialogue avec notre héritage. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le critiquer ou l'interroger, mais il faut accepter qu'on est les enfants du monde qui nous a donné naissance et qu'on ne peut pas s'en débarrasser comme ça.
Et d'ailleurs, cette façon de faire est un peu naïve quelque part, puisque comme vous le dites, c'est impossible de se débarrasser de ce dont on hérite d'une façon ou d'une autre. Vous montrez bien dans votre livre comment vous êtes positionné, comme nous sommes tous positionnés, entre justement des voies différentes, puisque vous racontez dans votre histoire avec vos grands-parents que l'histoire n'a pas été la même et que finalement, un de vos grands-parents incarnait la confiance, d'une certaine façon, pour faire un peu court, parce que c'est bien mieux développé dans votre livre, évidemment. Et une de vos grands-parents incarnait plutôt la peur. Et vous racontez comment vous avez essayé de ne trahir personne en prenant malgré tout un pont qui était celui de la confiance. Et donc cet héritage...
Oui, je...
vous en prie.
Oui. En fait, j'ai su très tôt dans ma vie, même enfant, que j'étais héritière de deux histoires inconciliables, qui avaient comme simultanément deux narratifs qui m'étaient offerts que je ne pourrais pas pleinement accorder l'un avec l'autre. Du côté de ma famille paternelle, il y avait une histoire de confiance, c'est-à-dire une histoire de gens qui ont été sauvés pendant la guerre par des non-juifs, par des justes, par leur amour de la République, par leur amour de la France, par leur ancrage, leur sédentarisation ici, leur assimilation, on dirait sans doute aujourd'hui. Et il m'enseignait, effectivement, il tenait un discours de confiance, alors que du côté de ma famille maternelle, le récit était aux antipodes de ça. J'étais la petite fille de survivants des camps qui avaient tout perdu, qui avaient été arrachés aux leurs et à la terre de leur naissance, qui étaient des apatrides, qui pendant très longtemps n'avaient aucune nationalité, bon, se sont retrouvés par hasard en France où ma mère est née, mais qui étaient, eux, dans un discours tout à fait compréhensible, d'abord dans un mutisme particulier, c'est-à-dire dans une incapacité à parler de leur traumatisme, tant il était puissant, et dans des douleurs telles que s'y transmettait, avec ou sans mots, une méfiance à l'égard de l'autre, de cet autre qui nous avait assassinés et qui avait tué les nôtres. Et en fait, j'ai senti enfant que je naviguais entre ces deux univers qui ne pourraient pas se concilier parce qu'ils ne parleraient pas, dans tous les sens du terme, la même langue. Et pourtant, pendant toutes ces années, j'ai fait le choix de faire résonner le premier discours plus fort que le deuxième. J'ai l'impression que dans mes engagements citoyens et mes engagements de rabbin aussi, j'ai fait le choix du dialogue et des ponts qu'on construit. Mais, et c'est une des raisons d'être de ce livre, après le 7 octobre, j'ai eu le sentiment soudain que la deuxième voie reprenait de la vigueur. Que face à ce qui m'est apparu comme une forme, bien sûr très différente, mais de résonance, de réverbération de l'histoire, je ne vais pas dire de répétition parce que l'histoire ne se répète pas toujours de la même manière, mais elle nous rend visite, elle nous hante comme un fantôme qui revient toquer à notre porte. J'ai eu le sentiment que la façon dont l'histoire réverbérait soudain dans ma vie m'obligeait à tendre l'oreille vers la deuxième voie. Et à me poser cette question terrible de est-ce que j'allais pas devoir, comme mes grands-parents maternels, devoir commencer à me méfier, me laisser être rattrapée par la peur, me poser la question de comment j'allais parler de tout ça à mes enfants. Qu'est-ce que je pouvais aspirer à transmettre dans un contexte où soudain... la peur et l'appréhension et la menace étaient de retour.
Et la question est vraiment là. On le voit bien dans votre livre, puisque finalement, raconter le présent, c'est aussi préparer le futur. Le choix des mots qu'on va utiliser aujourd'hui changera complètement ce qui se passera demain. Et on le voit bien aussi dans le climat de guerre qui est celui que traverse en ce moment Israël. Comment les enfants aujourd'hui, les adolescents, les jeunes gens, entendent justement l'écho de l'histoire, selon vous ?
Ben, c'est ce qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui, l'écho de l'histoire est là pour beaucoup d'entre nous. Il y a des résonances qui surgissent dans nos têtes. Mais simultanément, les mots qu'on utilise pour parler de la situation sont bien souvent erronés parce qu'ils viennent plaquer un autre temps de l'histoire sur ce qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, pour parler du conflit proche-oriental, qui est un conflit terrible, atroce, mais qui... malheureusement, il faut bien être honnête, n'est pas le conflit le plus meurtrier de la planète, n'est pas le conflit le plus long de la planète, et pourtant déclenche les passions les plus terribles à l'échelle internationale. On le sait aujourd'hui, il y a des conflits qui provoquent beaucoup plus de morts, et depuis plus longtemps, mais dont, pardon du terme, tout le monde semble se ficher. C'est-à-dire qu'on ne manifeste pas pour d'autres conflits, on manifeste pour celui-là, il déclenche des passions. Et il a une fâcheuse tendance, ce conflit, à déclencher ce qu'on appelle le phénomène du point Godwin. C'est-à-dire que quand on parle de ce conflit, c'est comme si tout le monde se sentait obligé tout à coup de plaquer les mots et les schémas de la Seconde Guerre mondiale à ce conflit. Moi, je suis stupéfaite de voir que, particulièrement ces derniers jours, tellement de gens se sentent obligés d'utiliser ce point Godwin, de parler, j'entendais encore... un leader d'un parti politique français parlait du ghetto de Varsovie pour décrire la situation à Gaza, d'évoquer des mots de génocide, etc., qui sont, encore une fois, on peut être critique, et moi je le suis depuis des années, de la politique israélienne, se demander quelle est la responsabilité des uns et des autres, des choix politiques des uns et des autres, être féroce dans la critique qu'on leur adresse, sans avoir besoin de venir plaquer un langage qui, en fait, n'est que l'importation des fantômes d'hier vers un conflit spécifique à aujourd'hui. Et je ne crois pas qu'on aide en quoi que ce soit à faire avancer la situation et à marcher vers la paix en venant plaquer un langage la linguistique d'un autre temps vers un conflit d'aujourd'hui, de façon même quasi obsessionnelle. Comme s'il n'y avait pas assez de mots dans la langue française pour parler de ce conflit, critiquer ses acteurs et ses protagonistes, sans avoir besoin tout à coup de venir transposer un autre temps de notre histoire qui nous hante vers ce moment d'histoire. C'est troublant de voir comme certains ont par exemple besoin, pour critiquer la politique d'Israël aujourd'hui, immédiatement de nazifier les protagonistes. La situation n'est évidemment pas... celle-là. Quel est donc ce besoin d'utiliser des mots erronés, comme s'il était en jeu quelque chose de presque de l'ordre du subconscient, presque un enjeu psychanalytique, comme s'il fallait absolument que dans ce conflit se rejoue quelque chose de notre passé avec lequel il faudrait en découdre. Pourquoi tellement de gens ont besoin aujourd'hui de s'imaginer que les victimes d'hier seraient devenues des bourreaux du même ordre? Qu'est-ce que ça veut dire de dire ça?
Et est-ce que les jeunes aujourd'hui...
C'est même pas une question à poser à un rabbin, c'est une question à poser à peut-être à des psychanalystes.
Est-ce que les jeunes aujourd'hui... on a la sensation que les jeunes, ils aspirent plutôt à un climat de paix, et pourtant, ils sont aussi enflammés ou embringués que les plus adultes.
Oui. Je sais pas si les jeunes aspirent à un climat... de paix, en fait, il suffit de regarder les réseaux sociaux et l'expression sur les réseaux sociaux pour en douter quelque peu. Aujourd'hui, il y a une culture du clash, une culture du buzz qui est encensée par la rhétorique des réseaux sociaux et des communautés qui s'y expriment. On n'est pas du tout dans une tentative de dialogue et de conversation. Le propre d'une conversation, c'est que vous êtes prêt à prendre le risque que dans la conversation, l'autre vous fasse changer d'avis. Vous êtes prêt à confronter vos idées et éventuellement à dire « j'ai changé, j'ai eu tort, tu m'as convaincu ». Et ça, c'est le contraire de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Personne n'est prêt sur les réseaux sociaux à se laisser convaincre. Vous prenez à partie un tiers de la façon dont vous allez écraser un interlocuteur. C'est tout sauf un art du dialogue et de la conversation. Moi, je ne crois pas qu'on soit tellement dans un moment où non, où on cherche un climat de paix, quels que soient les âges, pour ne pas particulièrement la jeunesse. On le voit politiquement, une montée en puissance, tout azimut des rhétoriques guerrières, où très très vite, il faut répartir le monde entre ses amis et ses ennemis, où il faut définir qui est avec moi, qui est contre moi, où il n'y a plus de place pour écouter le narratif de l'autre. Il faut immédiatement considérer que l'un est le bon et l'autre est le méchant. En fait, il y a une fâcheuse tendance face à tous les conflits dans le monde à regarder la situation comme celle d'un western, où il y aurait les cow-boys et les indiens, les gentils, les méchants, ceux qui ont raison, ceux qui ont tort, les forts, les faibles, les dominants, les dominés. Cette grille de lecture, elle s'est emparée de beaucoup de gens. Elle s'est emparée, on le voit, de lieux de connaissances, de campus. Elle est très puissante sur les campus américains, cette grille de lecture, et on voit sa répercussion. En fait, le monde est plus complexe que cela. On parlait il y a un instant du conflit proche-oriental. C'est une bonne démonstration de ça. S'imaginer dans ce conflit proche-oriental que c'est si simple, qu'il y aurait des gentils d'un côté, des méchants de l'autre, des forts d'un côté, des faibles de l'autre. Avoir une grille de lecture uniquement dominant, dominé, comme si toute la justesse et la justice se tenaient d'un côté et l'ignominie ou l'abjection de l'autre, c'est tellement ridicule. Si ce conflit était si simple... Si c'était si simple de le caricaturer ainsi, ça fait longtemps qu'on l'aurait résolu. S'il est compliqué, c'est précisément, s'il dure, c'est précisément parce qu'il ne peut pas être raconté ainsi. Et qu'il faut bien accepter que dans ce conflit s'opposent deux camps qui ont tous les deux un légitime narratif, un narratif légitime et audible. Il y a de part et d'autre des gens qui ont souffert, qui ont une histoire que nous devons entendre, qui ont des revendications tout à fait légitimes de part et d'autre. Les Palestiniens, comme les Israéliens, ont un narratif légitime dans leur droit à l'autodétermination, à la paix et à la sécurité. Et se raconter cette histoire de façon tellement caricaturale et simpliste, comme certains le font aujourd'hui, est tout sauf un discours de paix. C'est un discours belliqueux, ou disons-le autrement, c'est un discours qui, par ses simplifications grotesques, ne fait que mettre un peu plus de carburant dans le moteur guerrier.
Et alors, je reviens quand même sur cette histoire de jeunesse, puisqu'il en est question dans votre livre et dans toute votre écriture en général, parce que la question se pose toujours de la transmission, de ce que nous allons donner aux jeunes générations qui arrivent. À quel endroit avons-nous péché et qu'est-ce que nous pouvons réparer sur cette jeunesse alors qu'on n'aura pas amené à apprendre à dialoguer ?
Je crois que c'est encore une fois une question de transmission d'héritage. En fait, comment est-ce qu'on enseigne à la jeunesse une gratitude critique ? Pour moi, c'est l'expression clé sans doute. Comment est-ce qu'on enseigne à la jeunesse qu'elle a tout à fait le droit de critiquer son héritage, ce qu'elle fait très fortement aujourd'hui, mais à condition aussi de se savoir dans la gratitude à l'égard de ce qui nous a été transmis. On assiste à des guerres intergénérationnelles tout azimut aujourd'hui. Par exemple, elles sont particulièrement puissantes entre, on pourrait dire, la génération des boomers et la génération Z. On a l'impression que tout à coup, chacun regarde l'autre un peu en chien de faïence avec un certain mépris. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut se poser la question de comment on reconnecte les générations les unes aux autres. Comment on fait pour qu'elles se sentent un peu plus dans la gratitude ou un peu plus redevables. Alors c'est vrai que, encore une fois, moi je parle souvent quand j'écris de l'intérieur de la tradition juive, où cette question du lien intergénérationnel est extrêmement important et présent. En fait, la transmission juive est très souvent centrée sur une conversation entre les générations. Un exemple me vient à l'esprit. Il y a une fête très centrale dans la tradition juive qui est la fête de la Pâque juive, qu'on appelle Pessah, où les familles se retrouvent autour de la table une fois par an pour raconter la sortie d'Égypte, qui est le récit le plus sacré de la tradition juive. Et la tradition nous enseigne que la soirée de la Pâque juive ne peut commencer que si les enfants posent des questions aux parents. C'est-à-dire que tout le processus de transmission implique une conversation transgénérationnelle et un questionnement de la nouvelle génération vis-à-vis de son héritage. Alors c'est un exemple parmi des milliers d'autres, mais je trouve qu'il a Il est intéressant à explorer politiquement aujourd'hui, ou du point de vue par exemple de la politique de l'éducation, de la pédagogie dans notre société. Comment on fait pour retisser du lien et du lien entre les générations, pour encourager le questionnement, encore une fois, qui peut être tout à fait critique et parfois féroce par rapport à notre héritage, mais qui nous fait encore nous asseoir autour de la même table.
Et dans le vocable, dans la langue yiddish, dans ce livre, à nouveau, vous nous apprenez qu'il y a des éléments très importants et très intéressants, comme ce vav, ce petit vav, dont vous dites qu'il permet finalement de revisiter la temporalité selon le moment de l'échange qu'on a.
Oui. Alors, le vav, c'est une règle de grammaire hébraïque que j'explique dans le livre. Elle peut sembler un peu complexe et loufoque, mais elle vaut la peine d'être explorée. Il y a en hébreu biblique une règle de grammaire qui est présente partout dans la Bible, qui veut que quand on ajoute une petite lettre devant un verbe, abracadabra, il change de temps. Par exemple, si je vous écris en hébreu biblique « j'ai mangé », mais que tout à coup, j'ajoute cette petite lettre de rien du tout. C'est vraiment comme un petit fil devant le mot. Ce « j'ai mangé » devient « je mangerai ». C'est-à-dire que le passé devient un futur, et ça marche aussi dans l'autre sens. Une toute petite lettre transforme le futur en passé. Et je trouve qu'il y a dans cette règle de grammaire une philosophie existentielle intéressante. L'idée que le passé et le futur se tiennent la main, qu'en fait, ils sont reliés par un petit rien qui fait que les temps dialoguent entre eux. Que le passé nous rend visite et dira quelque chose de notre futur, mais que notre futur qu'on est en train de créer est capable de nous faire revisiter notre lecture du passé. On voit très bien comment tout ça résonne philosophiquement. Donc dans le livre, il m'importait effectivement de parler de cette philosophie du langage qui passe par la grammaire. Ça peut paraître fou parce que on a tous, enfin beaucoup d'entre nous, ont un rapport un peu de rejet à la grammaire comme étant quelque chose de barbant, d'ennuyeux, de contraignant. Mais je voulais montrer dans le livre que parfois, la grammaire et les règles grammaires sont porteuses des plus grandes révolutions possibles de pensée ou des plus grands projets politiques qui soient. Donc, je m'attache à la langue hébraïque. De la même manière, vous l'évoquiez il y a un instant, que je m'intéresse particulièrement au yiddish dans ce livre parce que bon, j'ai un rapport d'affection immense et de tendresse à cette langue qui a été celle de parlé par mes grands-parents. Mais surtout, le yiddish, pour moi, c'est une langue qui charrie d'une façon très particulière les douleurs de l'histoire, les migrations juives, les arrachements. Et donc, c'est une langue qui est comme sédimentée par ses douleurs et ses joies. Elle est porteuse de tout plein d'éléments d'histoire dont on hérite en la parlant. Vous voyez, finalement, on parle toujours de la même chose depuis tout à l'heure, de questions d'héritage et de comment on en parle et comment est-ce que la langue que l'on parle est hantée par les sédimentations de notre histoire et par notre héritage. Et donc j'essaie de le démontrer dans le livre à travers l'hébreu et le yiddish qui sont comme porteurs de fantômes et qui me permettent de parler de mes fantômes, de mes démons.
Et qui nous amène aussi, alors c'est très intéressant parce que vous nous permettez de plonger dans ces langues pour en apprendre aussi finalement le fonctionnement, la façon d'être à l'autre. Puisque du yiddish, vous dites, c'est une langue aussi qui permet d'exprimer le désespoir avec humour. Puisque vous faites référence à cette je n'oserais pas le prononcer, vous le prononcerez mieux que moi.
Oui,
Abror. Ouais, merci.
En fait, oui. Ouais. Voilà, dans le yiddish, il y a tout plein de petits mots qui sont d'ailleurs souvent en deux lettres ou en pas grand-chose, des petites expressions qui marquent la plainte, mais qui ne sont pas simplement une façon de se lamenter, qui sont une plainte presque humoristique, c'est-à-dire une sorte d'auto-dérision sur notre plainte. Il y a par exemple ce mot en deux lettres, oy, en yiddish, qui est mis un peu à toutes les sauces et qui peut vouloir dire tour à tour « Oh là là, quelle bonne surprise !» Oh là là, c'est terrible. Oh là là, quelle catastrophe. Oh là là, si j'avais su. Enfin, c'est une façon de décliner un terme de plainte avec un second degré, avec humour. Il y a une spécificité, c'est vrai, yiddish, qui semble enseigner dans le langage une capacité à se relever des tragédies. Et là encore, cette leçon ancestrale d'une langue, elle me semble pertinente pour nous tous aujourd'hui, dans un temps de compétition victimaire, dans un temps où tellement de gens ont envie de parler de ce qui leur est arrivé, de ce qui est arrivé aux leurs, de ce qui est arrivé à leur tribu, à leur ethnie, à leur groupe d'appartenance, raconter leur douleur. Il n'y a rien de mal à vouloir raconter ce qui nous est arrivé. Mais la question qui se pose toujours quand on témoigne de nos douleurs, c'est de quelle manière ce témoignage menace de nous enfermer un peu plus dans cette douleur. Comment est-ce que finalement, dans un témoignage sur ce qui nous est arrivé, il faut aussi trouver les outils de s'en relever, pouvoir dire que nous ne sommes pas simplement ce qui nous est arrivé, mais qu'il existe une façon d'engager notre résilience, de se relever de ce qui nous est arrivé. Et il me semble que dans ce rapport à la plainte humoristique yiddish, à ce qu'elle raconte, à ce qu'elle charrie, il y a un bon enseignement pour nous tous aujourd'hui.
Mais il y a un enseignement incroyable. Oui. Ah oui, c'est ça, incroyable. En lisant votre livre, je me disais, mais finalement, au-delà des mots encore, plus loin que les mots, c'est une attention au contexte, une attention à l'autre. Parce que comme vous venez de le dire, un simple mot ne va pas être utilisé de la même façon selon le contexte ou l'interlocuteur que l'on a. Donc ça veut dire que pour qu'il y ait un bon langage au sens bienveillant, bénéfique pour les interlocuteurs, ça induit aussi l'attention à l'autre en face. Et je trouve que c'est à cet endroit-là que votre livre fait écho avec la situation qu'on est en train de vivre.
Oui, en fait, je crois qu'il faut tout simplement, puisqu'on parle de mots, en entendre deux en français qui sont très parlants, c'est le mot de bénédiction et de malédiction. Le langage peut être une bénédiction ou une malédiction, mais on entend bien, qu'est-ce que c'est qu'une bénédiction ? C'est une capacité à bien dire, une bonne diction, de la même manière qu'une malédiction, c'est c'est le mal qui est dit. Voilà. Donc en fait, tout passe par la parole, la bénédiction et la malédiction. Et je pense que voilà, pour moi, ce retour au langage et à son exploration était essentiel. Mais j'ai envie de dire que c'est presque une question de survie pour moi aujourd'hui, de me poser la question de la puissance des mots. S'interroger constamment aux mots que nous utilisons pour savoir si, à l'instant où on les prononce, ils font du bien ou ils font du mal. On voit très bien comment, autour de nous, il y a plein de mots qui font du mal. Non seulement qui servent à rien, mais qui ajoutent de la haine à la haine. Et donc, on a tous une responsabilité, je crois, mais vraiment tous, pas seulement les acteurs politiques ou les enseignants ou les parents, tous à n'importe quel niveau, on a une responsabilité dans le contrôle de notre langage, la réflexion sur les mots qu'on utilise. De quelle manière ils peuvent ajouter de la haine ou au contraire être un début d'apaisement, apporter un tout petit peu de sérénité, de mesure, de modération. C'est une question que je me pose constamment aujourd'hui quand je prends la parole. Mais c'est quelque chose de difficile à faire. Souvent, les gens me disent « Ah, on veut vous entendre parler parce que vous allez... apporter de la modération ou avoir un langage de paix. Enfin, souvent, les gens ont cette attente, même vis-à-vis des leaders religieux en général, qui sont loin d'être à la hauteur toujours de cette injonction. Mais c'est quelque chose de très difficile à faire. Tout dans le monde, dans un temps de conflit, nous pousse au langage guerrier. Et je crois qu'il y a un travail que chacun doit faire sur son propre langage, de se demander... comment son interlocuteur va entendre les mots qui ne vont pas fermer des portes, mais les ouvrir. C'est pour ça que j'ai voulu commencer le livre et le clôturer par de la poésie. Le livre commence par une poésie de Mahmoud Darwish, qui est sans doute le plus célèbre poète palestinien, et s'achève par une poésie d'Yehuda Amichai, qui est un très grand poète israélien. J'avais envie que ces poètes dialoguent par l'intermédiaire de mon livre. Je ne sais pas s'ils se sont rencontrés de leur vivant, mais j'adore l'idée que mon livre les fasse avoir une conversation aussi. Et ces deux poèmes que j'ai choisis ont des points communs très forts. Mais en fait, ils parlent l'un comme l'autre de la nécessité de penser à l'autre, de penser à l'homme avec un grand H, quelles que soient les situations de conflit que nous vivons, quels que soient nos tiraillements et quels que soient les poids de l'histoire qu'on porte sur nos épaules.
Et j'allais y venir à ces deux poèmes, puisque vous invitez aussi le lecteur en disant « Mais j'aimerais que cette conversation ait lieu, même dans votre imaginaire, à vous, lecteur, à partir de ces deux poètes que vous mettez dans votre livre. » Et je reviens sur cette histoire de jeunesse qui est à la fois très enflammée sur les réseaux sociaux. On le voit, bien sûr, vous avez tout à fait raison. Et en même temps, on n'a jamais vendu autant de poésie. Dans les librairies, la poésie a beaucoup de succès auprès des jeunes. Et il y a quand même des poètes aujourd'hui qui... tente justement d'investir un terrain en disant la poésie est nécessaire. Quelle part elle a dans votre réflexion ?
J'aurais du mal à le dire, parce que je vois qu'elle est omniprésente dans ce que j'essaie de faire, dans mon rapport au texte. Je crois que plus que jamais, on a besoin de poésie et on a besoin de fiction dans notre monde. C'est d'ailleurs, je me rends compte que depuis quelques années, mon écriture évolue dans cette direction sans que je l'ai vraiment choisi. J'ai écrit beaucoup d'essais, mes premiers livres étaient tous des essais, et de plus en plus aujourd'hui, je me pose la question et de la part de fiction, et de la part de poésie, et de la part de théâtralité dans ce que j'écris, parce que je crois qu'on a besoin de jouer avec les mots. J'y pense beaucoup en ce moment avec la montée des fascismes autour de nous et des tentations fascistes et populistes qui s'emparent du monde. C'est quelque chose qui a été beaucoup travaillé par les sociologues et les spécialistes de sciences politiques. On sait que toute montée de fascisme ou de pensée fasciste dans le monde s'accompagne toujours d'une obsession du réel et d'un mépris pour la fiction et pour la poésie. C'est la raison pour laquelle je pense qu'aujourd'hui, il faut être pleinement capable de réinvestir la poésie et la fiction parce que c'est les seuls domaines qui agrandissent le réel, qui font que le réel est plus grand, parce qu'on fait un pas de côté pour le décrire. Donc j'ai l'impression que oui, voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur dans ma création, dans mon écriture, parce que en réalité, je crois que investir dans la poésie et dans la fiction, c'est une démarche politique, au sens noble du terme. C'est une démarche de souci politique, d'inquiétude politique, qui est le mien, mais pas seulement le mien aujourd'hui, celui de beaucoup de gens. Donc voilà, je crois qu'il y a dans la poésie une clé de résolution de conflits qu'on ferait bien d'explorer beaucoup plus sérieusement aujourd'hui.
C'est pour cette raison aussi que vous écrivez dans votre livre « Nommer, c'est prendre la responsabilité de ce qu'advient ce qu'on a nommé ».
Oui, nommer, c'est toujours un acte ô combien puissant. En fait, en nommant, on change la réalité. C'est marrant, dans la Bible, l'histoire commence comme ça. Dans la Genèse, tout le monde connaît cette histoire, Adam, c'est-à-dire l'humanité, est placé dans un jardin. Au sixième jour de la création du monde, Dieu crée des animaux, et puis tout à coup, place un homme dans ce jardin. Et on se pose la question de, finalement, pourquoi cet homme n'est pas considéré comme une espèce animale ? Les animaux et l'homme sont créés le même jour, donc c'est quoi la différence entre l'espèce animale et l'espèce humaine dans le récit de la Genèse ? Et en fait, la différence est énoncée en une phrase. La Genèse dit que l'homme a pour fonction de nommer la création. En fait, ce qui définit notre humanité, ce qui nous différencie d'une simple animalité, qui est aussi la nôtre, c'est notre capacité à nommer le monde. Et par les noms que l'on donne au monde, on change évidemment la réalité. Nommer, ça se fait pour le meilleur ou pour le pire. Voilà, c'est pour ça que les mots sont si explosifs et critiques.
Et comment reprendre délicatement des mots qui ont posé quelque chose qui est parfois lourd à porter pour le faire évoluer? Je prends par exemple dans votre livre le moment où vous dites, vous avez la sensation que finalement être juif, c'est appartenir à la confrérie de la poisse, qui est une formule, et on le voit bien, vous jouez de cette hérédité à la fois pour mesurer la profondeur de quelque chose et en même temps la capacité à en sourire, à défaut d'en rire en tout cas. Comment fait-on pour faire évoluer le vocabulaire dont on hérite?
En fait, je ne sais pas si on peut le faire évoluer. On peut créer un petit twist dans le vocabulaire. On le voit bien, mettons de côté des identités ethniques ou religieuses. On voit bien comme tout simplement chaque génération fait évoluer le langage. Je vois bien comment mes enfants qui parlent français grâce à moi, parce que c'est l'école et la société et leurs parents qui leur ont appris cette langue, ne la parlent pas de la même manière. C'est-à-dire qu'ils utilisent les mots en les ayant un peu... twister, changer. Ils inventent des expressions de la même manière que ma génération a fait la même chose, c'est-à-dire a un peu bousculé la langue qui nous avait été transmise. Et c'est le propre de la transmission, c'est qu'elle n'est jamais parfaite et fidèle. À chaque génération se crée une certaine infidélité. Mais ce que j'ai voulu montrer dans le livre, c'est que effectivement, dans mon identité juive endolorie aujourd'hui, il y a un héritage, mais il y a aussi l'héritage d'en faire quelque chose. L'héritage de bousculer les héritages. Je sais qu'il y a dans l'identité juive qui est la mienne une conscience de l'absolue vulnérabilité dans laquelle se sont trouvés les miens dans l'histoire. Le fait de être si régulièrement frappé, menacé, violenté ou assassiné dans leur histoire a développé chez les juifs une certaine relation à la vulnérabilité. Une certaine façon de faire avec, avec ces failles de notre histoire, avec tout ce qui a été cassé, tout ce qui a été endolori. La tradition juive constamment compose avec la vulnérabilité, avec la conscience du deuil et du manque. C'est là où d'ailleurs c'est intéressant par rapport au... J'y reviens un instant parce que tout le monde parle de ça aujourd'hui, du conflit actuel au Proche-Orient, c'est que ce que le sionisme à l'origine et la création de l'État d'Israël a cherché à faire, c'est à contrer cette vulnérabilité. Après la Shoah, à dire qu'enfin il existerait un refuge pour un peuple qui a été constamment menacé, pour qu'en ce lieu, il ne soit plus exposé à la vulnérabilité terrible qui a été la sienne dans l'histoire. Donc il y a eu une tentative de contre-pied par rapport à la vulnérabilité absolue des Juifs de diaspora. Et aujourd'hui, cette discussion sur vulnérabilité et pouvoir et puissance est une conversation, encore une fois, politique que les Juifs ont, que les Juifs doivent avoir, mais évidemment pas que les Juifs, que chacun d'entre nous doit avoir. De quelle manière nous sommes les enfants de nos failles, les enfants des douleurs de nos ancêtres. De quelle manière nous composons, non pas avec ce qui est plein, mais bien souvent avec ce qui est cassé dans notre histoire. Avec ce qui est endolori. J'ai en tête ces fameux vases, je ne sais plus comment ils s'appellent au Japon, vous savez, cet art de placer de l'or sur les morceaux brisés de nos céramiques. Ouais. Elle est très belle, cette image, je trouve, cette idée que on va pouvoir faire de la dorure, créer du beau, à partir de tout ce qui, dans notre héritage, est incomplet. Faire avec le cassé.
Oui, dans votre livre, vous expliquez aussi que le yiddish est la langue, est une langue de migration. Et qui dit langue de migration, bien sûr, ramène à cette question de la terre d'asile.
Oui, à la question du rapport à l'accueil, de la question du chez-soi. À quel moment on peut se sentir chez soi ? Je le raconte à travers l'histoire de ma famille, ma famille paternelle qui vit en France depuis des centaines d'années. Ce sont des Juifs français qui étaient installés là avant la Révolution française, extrêmement attachés à la France, à sa culture et cet ancrage, étaient conscients que pour beaucoup de gens, quoi qu'il se passe et quoi qu'il arrive, ils resteraient des outsiders. Il y avait dans leur identité un amour profond de la France, mais une conscience que leur installation était... fragile, pouvait-il vraiment appeler maison ce lieu pour lequel ils avaient tant d'amour, mais qui pourrait très bien demain leur nier des droits égaux, ce qui s'est effectivement passé de leur vivant avec Vichy et la collaboration et les lois concernant les Juifs. Enfin, l'impensable s'est produit. Le lieu qu'on pensait être une maison a un temps cessé de l'être, et ça invite encore une fois, chacun d'entre nous a se posé la question de ce qui fait maison, ce qui fait installation, ce qui fait sérénité. Et qu'est-ce qui, à un moment donné, potentiellement, nous replace tous dans l'exil.
Votre maison la plus sûre, Delphine Horviller, c'est le langage ?
Peut-être que c'est exactement ça. Peut-être que j'habite les mots. Parce que je suis consciente que aucune autre terre ne peut vous offrir une maison solide. et que on peut construire avec les mots des royaumes extraordinaires. On peut construire aussi un enfer, hein. Mais je crois qu'on peut construire les plus grandes demeures dans le langage et dans le jeu, dans tous les sens du terme, que les mots vous offrent. Les jeux de mots, mais aussi le jeu au sens de bricolage, au sens de mouvement. Vous savez, quand en bricolage, on dit qu'il y a du jeu dans un espace, ça veut dire que il y a du plus grand que ce que vous aviez prévu. Et je crois que le langage peut nous offrir ça. Donc peut-être qu'effectivement, vous le dites très justement, peut-être que j'ai choisi le langage comme maison, dans la conscience que toutes les autres maisons sont menacées de destruction, où qu'elles se trouvent.
Est-ce que vous avez la sensation, Delphine Horviller, aujourd'hui, d'être d'une certaine façon entendue et soutenue ? Vous avez déjà fait écho aux menaces que vous receviez, comme beaucoup d'autres gens, malheureusement. Vous faites aussi écho à Linda Sarsour dans votre livre, dont vous dites que les guerres sont toujours aussi des guerres de sexe, de toute façon. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que finalement, dans cette cacophonie incroyable que représentent les réseaux sociaux, il y a une possibilité d'être entendue malgré tout ?
Je veux croire que oui, je reçois, et j'en suis pleine de gratitude, beaucoup de messages de soutien de gens qui ont envie d'engager un dialogue, qui d'ailleurs ne sont pas nécessairement d'accord avec ce que je pense ou ce que j'écris, mais qui n'ont pas renoncé à ce que nous soyons dans un dialogue. Et je reviens sur, pour moi, la définition du dialogue, c'est la possibilité que l'autre vous change, que l'autre vous fasse changer d'avis ou vous fasse changer tout court. Et donc, je veux croire qu'on peut encore s'engager dans ce dialogue. Mais on n'est pas aidé, effectivement, par une modalité aujourd'hui de buzz, une modalité si présente sur les réseaux sociaux, cette idée qu'on serait qui on est, une fois pour toutes, que notre identité serait déjà fixée, déjà figée. Et qu'en aucune manière, la rencontre avec l'autre, c'est-à-dire le face-à-face avec l'altérité, ne pourrait nous altérer. Moi, je crois qu'on ne peut vivre ensemble que si on se sait altérable. C'est un mot que j'adore en français, l'altération. Parce que quand on dit qu'on est altéré, les gens entendent qu'on est abîmé. Mais en fait, ils oublient d'entendre qu'on est altéré quand la rencontre avec un alter, avec un autre, a fait de nous quelqu'un d'autre. Et voilà, je veux croire encore à ça. Et je veux croire qu'on va trouver encore le chemin de ces dialogues, de ces conversations. Mais ce vent de guerre ne nous y aide pas. Parce que tout est mis en place dans les discours des responsables politiques, un peu partout sur la planète, de certains responsables politiques un peu partout sur la planète, la montée du populisme, des intégrismes, des fondamentalismes. Des messianismes, tout est mis en place pour que notre langage soit appauvri, pour qu'on ne puisse plus parler de l'autre, encore une fois, que comme un ami ou un ennemi, en oubliant toute la subtilité que doit être celle de notre langage et de nos points de vue.
Et qu'est-ce qui ou qui vous a déjà fait changer d'avis ?
Oh ben ça m'arrive constamment. En fait, j'ai changé d'avis sur à peu près tout dans ma vie, sur ma vision. Je crois que les champions pour vous faire changer d'avis, c'est vos enfants. Alors, mes enfants me font toujours changer d'avis sur tout. Je sais pas. J'essaie de vous trouver un exemple de la génération. La nouvelle génération m'a fait changer d'avis sur plein de trucs. Par exemple, un truc tout bête. Sur mon titre, par exemple. Pendant longtemps, j'insistais pour que mon titre soit au masculin, que les gens m'appellent rabbin parce que je trouvais que c'était important de tenir à cette fonction. Enfin, ça paraît tellement grotesque par rapport à tout ce qu'on dit maintenant, mais c'est un exemple parmi plein d'autres. Je me suis rendu compte que j'ai changé d'avis parce que le langage de mes enfants et de leur génération a changé. Quand ils ont commencé à féminiser les fonctions, à avoir un rapport au langage beaucoup plus simple que le mien dans sa féminisation, j'ai évolué, j'ai changé. Leur langue a fait changer la mienne. Leur pensée a fait changer la mienne. Mais c'est vrai aussi de plein de gens avec qui j'ai eu des conversations politiques qui m'ont évidemment fait changer d'avis. L'amour vous fait changer d'avis, c'est une de ses grandes forces. Vous comprenez que tout à coup, un nouveau monde s'ouvre à vous et que vous n'êtes plus du tout sûr d'avoir eu raison. Et parfois même, c'est chouette de se rendre compte qu'on a eu tort. Ça fait grandir. Voilà, donc j'ai vraiment l'impression, d'avoir changé d'avis dans plein de domaines.
Ce sera ma dernière question, Delphine Horviller. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit de ce livre que vous aimeriez dire ?
Plein de choses. Je vais vous raconter une petite anecdote qui vient d'ailleurs d'être corrigée par l'éditeur. J'ai écrit ce livre, j'ai écrit 10 conversations dans ce livre, 10 chapitres de conversations. Et j'ai relu ce livre 50, 100 fois, comme on le fait toujours quand on écrit un livre et qu'on le rend à son éditeur. L'éditeur a dû le relire lui aussi 50 ou 100 fois. Il est passé entre bien des mains de correcteurs au moment de la fabrication, de la correction, etc., de la typo et que sais-je encore. Et au moment où il est sorti en librairie, un lecteur m'a contacté au bout de quelques jours pour me dire qu'il manquait un chapitre. Qu'en fait, quand on lisait le livre, on passait du chapitre 9 au chapitre 11. Parce qu'il y a eu une erreur de pagination. Il manquait pas un chapitre, mais aucun d'entre nous, ni l'éditeur, ni les correcteurs, ni moi, n'avons fait attention au fait qu'il était mal paginé, je ne sais pas si on utilise ce mot, et qu'effectivement, au lieu de passer au chapitre 10, on passait au chapitre 11. J'ai trouvé cette anecdote, elle a été corrigée depuis, mais j'ai trouvé cette anecdote extrêmement inspirante pour moi, parce que c'est comme si dans le livre, il manquait le chapitre 10. Tous les premiers lecteurs de ce livre ont un livre dans lequel le chapitre 10 est absent. Je me suis dit que peut-être un jour, j'écrirai un livre qui s'appelle « Le chapitre 10 ». Pour essayer de voir qu'est-ce qui est manquant, qu'est-ce que j'ai pas réussi à écrire et à dire. Et je sais qu'il y a plein de choses que j'ai pas réussi à écrire et à dire dans ce livre. Il était important pour moi qu'il se conclue sur la souffrance des autres. Toujours, on vous dit, et particulièrement depuis le 7 octobre, face à ce conflit proche-oriental qui réverbère chez nous, on vous dit « quid de la douleur des autres, n'es-tu pas consciente de la souffrance du camp d'en face ?» entre guillemets. Et cet argument, il est tellement terrible parce qu'il suggère tout le temps que chacun d'entre nous serait coincé uniquement dans l'empathie pour les siens. Et moi, ce n'est pas du tout ce que je veux exprimer. Enfin, j'ai une empathie très profonde pour les douleurs des uns et des autres. Et j'en veux terriblement à ceux qui veulent nous faire croire que la souffrance n'est que d'un côté. Donc je pense que je continuerai à écrire et à parler de cela, sans doute. Et peut-être que dans ce livre, j'en ai pas encore assez parlé de notre capacité, ou plutôt notre devoir à tous, d'être sensibles aux uns et aux autres. Et je voudrais bien que les gens comprennent, et je ne sais pas si ce sera le cas, que quand je parle de ma douleur juive après le 7 octobre, c'est sûrement pas pour suggérer qu'elle est la plus forte, qu'elle est la plus terrible, qu'elle est la seule qui mériterait qu'on en parle. Je crois que je n'en parle que pour ouvrir la porte d'une discussion beaucoup plus générale et collective sur nos héritages de douleur et ce qu'ils produisent en nous. Donc je crois que parfois j'ai peur que mon livre soit perçu ou à l'inverse de ce que j'ai essayé d'y exprimer. Je raconte l'héritage des fantômes de mon histoire, de la douleur qu'ils suscitent chez moi et chez beaucoup de gens autour de moi, non pas pour qu'on valorise ma douleur plus qu'une autre, mais pour que chacun d'entre nous prenne conscience des sédimentations de nos histoires, de la manière dont elles sont hantées. Et précisément parce qu'elles sont hantées par le passé, elles doivent nous permettre aujourd'hui d'engager une autre conversation.
Finalement, pour faire corps et n'être qu'une humanité.
Oui, parler de la douleur des uns et de la douleur des autres pour y voir non pas la douleur d'une identité ou d'une autre, d'une naissance ou d'une autre, mais une douleur humaine avec un grand H.
Merci beaucoup, Delphine Horviller.
Merci à vous.